Les troubles du comportement alimentaire touchent de nombreuses personnes en France, près de 1,2% des femmes et 0,25% des hommes français, selon l'assurance maladie. En cette journée mondiale des troubles du comportement alimentaire, nous avons reçu Aline Lebossé et Virginie Cochet de l'association Solidarité Anorexie Boulimie 35. Aline Lebossé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association Solidarité Anorexie Boulimie 35 et juste à vos côtés se trouve également Virginie Cochet, trésorière de cette même association.
Bonjour.
Bonjour. Alors Solidarité Anorexie Boulimie 35, c'est une association rennaise qui a pour but de soutenir les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire et leur entourage également. Alors 1 million, c'est le nombre de personnes en France qui souffrent de troubles de comportement alimentaire, dont la moitié ne sont pas soignées car le plus souvent non dépistées. Alors tout d'abord, qu'entend-on par trouble du comportement alimentaire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot?
Trouble du comportement alimentaire, ça englobe plusieurs maladies. Alors les plus courantes, ça va être l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. C'est vrai qu'on parle de ces trois grandes-là. Après, il y en a d'autres, hein, l'orthorexie... Mais vraiment, voilà, les trois principales à retenir, c'est l'anorexie, boulimie, hyperphagie.
Est-ce qu'on peut définir un peu ces trois pathologies, leurs différences?
Alors, l'anorexie, du coup, ça va être une restriction alimentaire, voire une absence d'alimentation. La boulimie, du coup, ça va être de manger beaucoup de nourriture en peu de temps. Et du coup, les personnes compensent après par soit de l'activité sportive, soit des laxatifs, soit beaucoup de sport. Et du coup, l'hyperphagie, c'est pareil que la boulimie, sauf que la personne ne compense pas derrière. Donc, elle mange beaucoup et il y a une grosse prise de poids qui s'ensuit.
D'accord. Est-ce que dans l'anorexie, donc on l'a dit, où là, il y a une perte de l'appétit et il y a aussi une perturbation de l'image corporelle, est-ce que là aussi, il y a justement des comportements de compensation, comme le fait de faire beaucoup de sport, comme le fait de...
Oui, l'anorexie également aussi, oui.
D'accord.
Beaucoup de sport, utilisation de laxatifs, parce qu'on appelle ça l'anorexie purgative. Donc, il peut y arriver à avoir des moments où on ne peut rien manger et puis après, on peut faire des crises de boulimie, et se faire vomir, prendre beaucoup de laxatifs, faire beaucoup de sport.
D'accord. Donc, voilà pour ces trois grandes pathologies qu'on englobe sous le terme de troubles du comportement alimentaire. Comment on explique l'apparition de ces différents troubles? Est-ce qu'il y a des causes qui ont été un peu déterminées?
Oh, il y a plusieurs causes. Il n'y a pas... Même pour une personne, il n'y a pas une seule cause, c'est
un ensemble.
Ouais, un ensemble de troubles de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte et comment expliquer?
Qui sont un peu enfouis, on va dire, et qui ressurgissent.
Ouais, il suffit d'un événement après, et puis cet événement-là, par exemple un décès, ça va déclencher les troubles alimentaires, mais ils étaient déjà là auparavant.
D'accord, donc il y a quand même une notion de prédisposition peut-être ou de vulnérabilité antérieure.
Fragilité du coup.
D'accord, et qui peut se déclencher suite à des événements de vie. Les personnes les plus touchées sont, quand on regarde les statistiques, c'est souvent des jeunes personnes, entre 12 et 18 ans la plupart du temps, même s'il y a aussi des cas de, par exemple pour l'anorexie, d'anorexie prépubère. Et c'est aussi très souvent des femmes. Comment on peut expliquer cette prévalence d'individus de sexe féminin et de genre féminin?
Alors déjà, sur l'âge, je dirais qu'effectivement, les troubles alimentaires commencent à l'âge adolescent. Mais il faut savoir qu'une moitié des personnes souffrant de troubles alimentaires, ce sont des adultes. On a souvent tendance à dire que les TCA, c'est une maladie d'adolescent. Mais non, ça commence à l'adolescence. Ouais. Après, si on a la chance d'être pris en charge rapidement, les adolescentes ont la chance de pouvoir guérir assez rapidement, au bout de 3 ans. Si on n'a pas de prise en charge assez rapide, du coup, ça devient chronique et on en souffre encore à 40, 50, 60 ans.
Et il faut savoir qu'au départ, on est souvent dans le déni. La propre malade est dans le déni. Souvent, au départ, ça peut partir d'un régime, mais en fait, ce n'est pas un régime. Hein. On se devait à des petites restrictions à de grosses restrictions et puis à ne plus pouvoir manger, avoir très très mal à l'estomac, très mal. Ce sont des restrictions qui viennent petit à petit et puis un jour on se rend compte que la perte de poids est énorme et c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment malade mais qu'en fait ça fait peut-être des années qu'on est... D'où nous, notre intention justement c'est de prévenir. Parce que plus on est soigné vite et plus on a de chances de guérir à 100%.
Et est-ce que la personne, initialement, prend conscience quand même de son trouble ou vraiment il y a une période où c'est pas forcément conscientisé?
Bah, au début, elle n'en a pas conscience. Elle est dans le déni. Elle se croit super puissante. Elle se croit capable de tout, hein, alors qu'elle va être un poids très, très bas. Mais elle déborde d'énergie. Ça va être des élèves super studieux à l'école qui réussissent très bien.
35 kilos, on fait de la course à pied pendant 1 heure, 2 heures. Oui. Ça va très bien. Les bilans bio, au départ, sont corrects. Donc, rien ne laisse présager qu'on est malade, en fait. Mm. Et quand les gens nous disent « Ah, mais t'as maigri !» Oui, mais non, ça va passer.
Ouais, et puis, vient le moment où, parfois, justement, les bilans biologiques sont de moins en moins bons.
Oui, où le corps ne suit plus du jour au lendemain, quoi. C'est, il arrive des fois où, la veille, on pouvait faire une course à pied, et puis, le lendemain, on n'arrive plus à se lever, quoi. Et là, on se rend compte qu'effectivement, notre corps, on l'a un petit peu poussé à bout, quoi.
Et il y a des symptômes qu'on peut retrouver justement dans ces cas assez graves, notamment au niveau des organes vitaux.
Le cœur, dans le coma.
Voilà.
On peut tomber dans le coma, d'accord.
Le cœur, oui.
Ouais, le cœur.
Qui est vital.
Le cœur, le foie,
les reins.
Tous ces organes-là, de toute façon, ils en subissent les conséquences.
Et forcément, parce qu'on n'apporte pas d'alimentation.
Disons que la restriction alimentaire, du coup, fait que l'organisme, il puise sur les organes vitaux. Et que si on ne réagit pas à temps, du coup, les organes vitaux sont atteints. Et ça va jusqu'à la dialyse, coma, à des maladies, du coup, après, irréversibles.
Et puis, il y a des médecins qui essayent aussi de nous dire « Non, mais est-ce que tu te rends compte quand ton apport calorique n'est pas uniquement de ce que tu dois prendre dans la journée, mais aussi pour tes organes vitaux ?» Mais ça, on ne le conçoit pas quand on est dans la maladie. On ne pense pas à ça. On pense qu'à l'apport calorique qu'on a besoin pour se dépenser. Mais en fait, les organes vitaux en ont besoin.
Et comment vous pourriez estimer peut-être l'impact de notre société ou des normes qu'on retrouve dans notre société ? Est-ce que ça a un impact ?
Je pense que les jeunes ne se font pas de cadeaux entre eux et je pense qu'il y a toujours cette peur du jugement et si on ne rentre pas dans les bonnes cases, on ne fait pas partie de la société. Et c'est ça qu'on aimerait briser, justement, casser, c'est que il n'y a pas de cases définies. On est libre d'être la personne qu'on est, avoir le corps qu'on a, mais ça, il y a encore du travail à faire.
C'est vrai qu'on voit beaucoup des jeunes personnes, notamment des jeunes filles, qui se font peut-être influencer par les modèles un peu qu'on peut voir sur Instagram, dans le magazine.
Tout ce qui est influenceuse, ça n'aide pas. Parce que moi, à l'époque, c'était les mannequins des années 90, je me rappelle que j'adorais les regarder. Et puis, alors qu'on sait qu'en plus, les photos déjà sont déjà préfabriquées, retouchées. Donc, mais je pense que les réseaux sociaux n'aident pas du tout, là.
Et donc, une fois diagnostiqué, on fait tout pour être soigné. Notamment, ça passe par une prise en charge qui est pluridisciplinaire.
Dans la mesure du possible.
Dans la mesure du possible. C'est pas toujours le cas, peut-être
Non. Malheureusement, il y a très peu de grosses équipes pluridisciplinaires dont on aurait besoin.
Et donc, ça devrait passer par quoi, selon vous quand c'est pas forcément le cas, en tout cas, quels sont les piliers importants pour...
Dans l'idéal, il faudrait un médecin traitant qui puisse gérer, du coup, coordonner les soins avec le psychiatre, la psychologue, là où la diététicienne, le kiné, par exemple. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, du coup, il y a très peu de réseaux qui fonctionnent ainsi. Chaque professionnel travaille un peu de son côté, bricole un peu de son côté, mais du coup, ça fait des morceaux de puzzle, je dirais, qui, au final, n'arrivent pas à se reconstituer parce que, du coup, les professionnels ne se coordonnent pas, quoi.
Oui, c'est important. C'est la coordination qu'on voudrait apporter aussi entre tous ces soignants.
Est-ce que ça pourrait passer, justement, par des unités un peu spécialisées ?
Alors, ça existe, sur Rennes. On a une unité spécialisée TCA, du coup, à la clinique Saint-Yves, qui font un très bon travail et où ils fonctionnent en réseau et qui poursuivent en réseau avec l'extérieur aussi après. Mais ça ne suffit pas. C'est 12 places pour toute la Bretagne.
On
voit l'augmentation des chiffres...
En 2 ans, avec la crise Covid, ça a augmenté de 30%.
D'accord.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme.
On était passé de 600 000 à 1 million.
Sans augmentation de professionnels, de structures, de lui adapter. Donc,
forcément un impact sur les patients, patientes derrière. Aujourd'hui, c'est le 2 juin, donc la 7e journée mondiale des TCA. Le thème de cette année, c'est aider et soutenir. Comment on peut aider justement une personne qui présente des TCA quand on n'est pas dans le domaine médical, qu'on est simplement un ami, un proche, membre de la famille?
Alors, le premier rôle, je dirais que c'est d'être à l'écoute, d'être auprès de cette personne-là et de la garder en tant qu'amie ou en tant qu'enfant, mais pas la regarder en tant que personne malade. Lui proposer diverses activités, la soutenir, lui faire confiance, mais surtout pas focaliser sur la maladie, sur la nourriture, sur est-ce que tu as mangé, tu as vu, tu n'as pas mangé. Plus on va focaliser sur la nourriture et plus on va pousser la personne dans les troubles alimentaires.
Et à se détacher de cette personne, parce qu'on n'aime pas avoir des réflexions comme ça, ce qui est normal, parce que c'est quelque chose qui nous touche.
Et nous, on insiste toujours sur le fait que, voilà, en tant que parent ou en tant qu'ami, faut toujours garder ce contact de confiance et d'amour, d'être présent pour cette personne qui souffre.
Il faut savoir que c'est une souffrance énorme, très profonde. C'est une maladie où il y a énormément de souffrance, physique, psychologique. C'est vraiment très dur. Et nous, quand on voit dans les groupes de parole, maintenant les parents qui viennent avec leurs adolescents, on sent que c'est une grosse souffrance. Mais c'est une souffrance aussi pour l'entourage.
Voilà, c'est toute la famille qui souffre.
Les aidants sont vraiment dans la souffrance également parce qu'ils sont impuissants. Ils voient leurs enfants qui maigrissent et ils ne peuvent rien faire parce qu'il n'y a pas de soins, assez de soins. Et c'est compliqué. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à manger si ce n'est que de lui mettre une pompe.
Donc là, il y a un grand travail à faire aussi dans l'accompagnement, bien sûr, de la personne qui souffre de TCA, mais aussi dans l'accompagnement de l'entourage. Peut-être pour aider à détecter aussi ou...
Oui. Aider à détecter, mais surtout aider à accompagner du coup la personne qui souffre. Parce que nous, en tant qu'association, on ne remplace pas les médecins, mais on permet aux personnes en souffrance de parler. Et on voit des parents qui n'ont jamais eu l'occasion de parler, franchir les portes de l'association. Et là, pour la première fois, ils arrivent à parler librement des TCA. Et du coup, ils se sentent tellement délivrés qu'ils en pleurent, Parce que c'est la première fois qu'ils arrivent à en parler librement, sans jugement.
Et puis on essaie d'avoir des discours pragmatiques pour essayer d'être vraiment dans le non-jugement aussi et dans l'empathie, parce qu'on sait très bien ce que c'est.
Vous parliez à l'instant de libération. Vous organisez ce soir une soirée ciné-débat à 19h à la Maison Quartier de Villejean afin de lever les tabous, c'est ce que j'ai pu lire dans votre communiqué. Et vous mentionnez justement à l'instant cette libération de la parole. Pourquoi bien tel tabou autour des troubles du comportement alimentaire?
Parce qu'en France, comme dans beaucoup de pays, la nourriture, c'est ce qui nous permet de vivre. Et du coup, en plus en France, on a un pays où la gastronomie est bien reconnue. Et forcément, le fait de ne pas manger ou d'avoir un problème avec l'alimentation, ça pose problème. Ce n'est pas normal, ce n'est pas dans les normes. L'alcoolisme, c'est passé dans les normes. Maintenant, on en parle plus facilement. Le tabagisme aussi. Les TCA, ce n'est pas encore considéré encore comme une maladie à part entière, Et c'est ça qu'on aimerait faire passer le message, c'est que les TCA, l'anorexie, la boulimie sont des maladies à prendre au sérieux. C'est pas juste des caprices d'adolescentes qui veulent embêter leurs parents.
Et c'est comme toute autre maladie, on n'a pas choisi notre maladie. Et ça, il faut que les gens l'entendent.
Donc ça a un réel impact finalement, cette omerta, sur les patientes et les patients qui en souffrent. Ouais. Alors deux courts-métrages seront diffusés ce soir, Sacha et Comme une plume, en présence de la réalisatrice Émilie Bellina Richard, et suivie derrière d'un échange avec le public. Donc c'est à 19h à Maison Quartier de Villejean ce soir, on l'a dit. De quoi on parle dans ces courts-métrages? Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu?
Alors, pour résumer, c'est l'histoire d'une jeune fille, donc Sacha, qui a 23 ans et qui, en fin de compte, raconte son histoire à travers une interview avec un journaliste. On voit son parcours, du coup, dans l'anorexie, puis dans la boulimie, son parcours au niveau hospitalisation. On voit sa souffrance. Dans le deuxième court-métrage, on voit encore plus la souffrance de l'entourage, de ses amis, qui du coup essayent de l'aider, mais n'y arrivent pas, ou ne trouvent pas de moyens pour l'aider. À la fin du deuxième court-métrage, Sacha délivre un très beau message d'espoir. Mmh. Et il faut savoir que c'est inspiré d'une histoire vraie.
Mmh. L'anorexie, notamment, a déjà été portée à l'écran dans un film, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle « To the Bones », avec Lily Collins. Est-ce que cette représentation était juste, selon vous? Et en quoi le cinéma peut aussi participer, peut-être à lever le tabou ou à sensibiliser, en tout cas?
Bah, disons que le cinéma, du coup, c'est ouvert à tout public. Là, on propose une séance gratuite pour justement qu'il n'y ait pas de frein et que tout le monde puisse y accéder. Les images, les textes, les paroles qui sont transmises, c'est plus facile à comprendre que de lire un livre, par exemple.
Les émotions se dégagent peut-être plus aussi avec un film qu'avec un livre. Parce qu'un livre, on s'en fait des images, mais une fois qu'on a vu les deux films, en fait, sont très parlants quand même.
En tous les cas, on vous invite toutes et tous à venir ce soir à la salle de spectacle de la Maison de Quartier de Vigean pour cette projection gratuite de deux courts-métrages, c'est à 19h. Est-ce qu'il y a d'autres événements à venir pour votre association dans les jours à venir, dans les semaines à venir?
Tous les premiers samedis du mois, pour l'instant, propose du coup un groupe de parole ouvert aux parents, à la famille, à la fratrie et aux personnes malades.
Autour donc des troubles du comportement alimentaire. Eh bien, merci à toutes les deux, merci. Aline Lebossé et Virginie Cochet, d'être venues sur Scylab à notre antenne. Et puis, à bientôt.
Merci.
À bientôt, merci.